Les éditions de l'Avenir présentent Samuel Champlain, fondateur de Québec et père de la Nouvelle-France, Histoire de sa vie et de ses voyages par N.E. Dionne, lu par Christian Martin. Chapitre 3e. Voyage de 1603. Aymar de Chastes succède à Chauvin dans ses privilèges au Canada. Compagnie formée par le commandeur. Champlain est gravé, chargé de faire les explorations dans le Saint-Laurent et Prévert dans la Gaspésie. Arrivé à Tadoussac. Rencontre d'un parti de sauvages de différentes nations. Fêtes solennelles et croyances religieuses des sauvages. Champlain leur enseigne le culte du vrai Dieu. Remonte le Saint-Laurent jusqu'au rapide de la Chine. Retourne à Tadoussac et de là à Percé. Sa rencontre avec Prévert. Rejoint Gravé à Tadoussac, puis repasse en France. Mort du commandeur de Chastes. Champlain se rend à la cour. Rapport de son voyage à Henri IV. Chauvin avait succédé à Troïlus du Mesgrouez, marquis de La Roche, dans ses privilèges pour le trafic des pelleteries. Plus soucieux de faire sa fortune que de fonder une colonie sur le sol vierge de la Nouvelle-France, le négociant normand avait jeté sur les plages de Tadoussac un simulacre d'établissement qui servit de tombeau aux quelques misérables matelots qu'il y avait abandonnés à leurs propres ressources. Malgré son manque de fidélité à remplir un engagement d'honneur, Chauvin réussit à conserver son monopole pendant 3 années consécutives. Les Malouins n'avaient pourtant pas failli, suivant une habitude vieille de 12 ans, de porter leur plainte à la cour, se réclamant des services rendus à la France par Jacques Cartier, leur compatriote, comme si la ville de Saint-Malo, dit Champlain, avait contribué aux frais des découvertes de Jacques Cartier, qui y fut par commandement et aux dépens du roi François Ier, les années 1534 et 1535, découvrir ces terres aujourd'hui appelées Nouvelle-France. Si Cartier a découvert quelque chose aux dépens de Sa Majesté, tous les sujets peuvent y avoir autant de droits et de libertés que ceux de Saint-Malo. Il n'y a pas de doute que les Malouins eussent mieux fait d'invoquer d'autres motifs que celui de la propriété des découvertes de leur illustre concitoyen après avoir contesté et arraché à ses successeurs et héritiers un monopole qu'ils avaient obtenu au même titre. Le roi ne tint compte qu'à demi de leur représentation. Chauvin, étant mourant à Honfleur d'une maladie contractée durant son dernier voyage à Tadoussac, Henri IV jeta ses regards sur un de ses plus fidèles sujets, heureux de s'acquitter d'une dette de reconnaissance. La Providence permit en outre que le successeur de Chauvin fût un excellent catholique, homme très honorable, écrit Champlain. Bon catholique, grand serviteur du roi, qui avait dignement et fidèlement servi Sa Majesté en plusieurs occasions signalées. Tel était Aymar de Chastes, gouverneur de Dieppe, chevalier de Malte, commandeur de l'Ormeau et grand maître de l'ordre de Saint-Lazare. Henri III l'avait aussi pourvu de l'abbaye de Fécamp. Catherine de Médicis, mère d'Henri III, ayant entrepris d'enlever à Philippe II le trône de Portugal, avait tenté à 2 reprises de s'emparer des îles Açores, une des possessions du roi d'Espagne. Nous avons été témoins du résultat malheureux de la première expédition, commandée par Philippe Strozzi. La reine-mère voulut avoir sa revanche et chargea le vice-amiral de Chastes du soin de conduire une flotte aux îles Açores. Mais cette seconde campagne n'aboutit à rien. Aymar de Chastes retourna son gouvernement de Dieppe et lorsque la Ligue commença à se dissoudre, il fut un des premiers à déclarer son allégeance à Henri IV. Cette considération seule suffit pour expliquer la facilité avec laquelle il obtint des lettres patentes qui lui permettaient de fonder un établissement au Canada. Son plan était grandiose et bien digne d'un homme de sa vertu et de son patriotisme. Bien qu'il eût la tête chargée d'autant de cheveux gris que d'années, il voulait encore, dit Champlain, laissait à la postérité, par cette louable entreprise, une remarque très charitable en ce dessein, et même d'y porter en personne, pour consommer le reste de ses ans au service de Dieu et de son roi, en y faisant une demeure arrêtée pour y vivre et mourir glorieusement. Comme les dépenses de l'expédition projetée menaçaient d'être élevées, M. de Chastes forma une compagnie de gentilshommes et des principaux marchands de Rouen et d'ailleurs. Les Malouins, qui ne s'étaient pas encore désistés de leurs prétentions, avaient pu obtenir du roi la permission pour deux des leurs de faire le trafic au Canada, à condition qu'ils supporteraient une partie des frais d'organisation. Des lettres à cet effet furent adressées à la communauté des bourgeois, autorisant Gilles Hébérard, sieur du Colombier, et un nommé Prévert à faire des explorations au Canada. Mais il parut compris que ce ne serait pas dans la même direction que les vaisseaux de la compagnie de M. de Chastes, car Pontgravé, que le roi avait choisi pour commander la flotte, comme personne qui avait déjà fait le voyage et reconnu les défauts du passé, reçut l'ordre de se rendre à Tadoussac. Il avait promis, en outre, de poursuivre sa route jusqu'au Sault Saint-Louis, et même au-delà, et de faire rapport au retour. L'on se proposait ensuite de faire un second embarquement auquel devait prendre part le commandeur de Chastes, qui abandonnerait son gouvernement de Dieppe. « Sur ces entrefaites, écrit Champlain, je me trouvais en cours, venu fraîchement des Indes occidentales, où j'avais été près de 2 ans et demi, après que les Espagnols furent partis de Blavet et la paix faite en France. Allant voir de fois à autre le sieur commandant, jugeant que je lui pouvais servir en son dessein, il me fit cette faveur de m'en communiquer quelque chose et me demanda si j'aurais pour agréable de faire le voyage pour voir ce pays et ce que les entrepreneurs y feraient. » Champlain se mit entièrement à la disposition du commandeur, lui faisant observer toutefois qu'étant l'obligé du roi, et par sa naissance et par la pension qu'il devait à sa magnificence, il attendrait un ordre de sa part avant de contracter un tel engagement. Après avoir fait ses adieux à l'Espagne, au retour de l'Amérique, Champlain était revenu en France, probablement à Brouage, pour revoir ses vieux parents, et aussi pour mettre en ordre les notes de son voyage. Un rapport détaillé, et rédigé avec un soin scrupuleux, fut soumis à Henri IV, qui se montra tellement satisfait qu'il lui accorda une pension, en même temps qu'il le nommait son géographe. M. de Chastes obtint facilement la permission pour son protégé et M. de Gesvres, secrétaire des commandements du roi, lui expédia, dans tous les termes voulus, une lettre d'autorisation avec lettre adressante à Pontgravé pour que celui-ci le reçût en son vaisseau, lui fît voir et reconnaître tout ce qu'il pourrait et l'assista de ce qui lui serait possible en cette entreprise. « Me voilà expédié, dit-il, je pars de Paris. » Et m'embarque dans le vaisseau du Dupont, l'an 1603, le 15e jour d'avril. La flotte, composée de moyennes barques, jaugeant de 12 à 15 tonneaux, fit voile de Honfleur. Il fallut relâcher au Havre de Grâce pour une journée, en attendant un vent favorable. Durant la première quinzaine, la navigation fut assez heureuse. Mais le 30, jour de Pâques, il s'éleva une grande tourmente qui paraissait être plutôt foudre que vent, laquelle dura jusqu'au 16 avril. Le 2 mai, on prit connaissance du grand banc, et le 6, les barques vinrent si près de Terre-Neuve que l'on pouvait entendre le bruit des vagues déferlant sur la côte, mais sans l'apercevoir à cause de la brume. Le cap de Sainte-Marie, les îles Saint-Pierre, le cap de Ré, les îles Saint-Paul et le cap Saint-Laurent s'offrirent tour à tour à leur regard depuis le 7 jusqu'au 18 du même mois. Deux jours plus tard, l'île d'Anticosti fut signalée et la flottille, contournant la pointe méridionale de cette île, longea la côte de Gaspé et la rive sud du fleuve Saint-Laurent jusqu'au Bic, d'où elle traversa directement au nord jusqu'à Tadoussac. Ce fut le 24 de mai seulement que se termina le voyage, après avoir passé 1 mois et 9 jours sur l'eau. Deux jours plus tard, les vaisseaux vinrent mouiller dans la baie de Tadoussac, dont l'entrée est formée par deux pointes. À l'ouest, la pointe aux Alouettes et la pointe aux Vaches à l'est. Champlain les désigne respectivement sous le nom de pointe de Saint-Mathieu et de Tous les Diables. Le lendemain du jour qu'ils mirent pied à terre, Champlain et Pontgravé s'empressèrent d'aller à la rencontre d'un parti de sauvages cabanés à la pointe de Saint-Mathieu. Ils amenaient avec eux deux Indiens que Pontgravé avait fait consentir à le suivre en France dans un voyage précédent. Quand ils arrivèrent au milieu des indigènes, ils étaient une centaine environ, ceux-ci étaient en train de faire tabagie, c'est-à-dire de festiner. Anada Bijou, leur chef, les reçut très cordialement, les fit asseoir dans sa cabane à côté de lui, les autres sauvages étant rangés en deux files de chaque côté. Un des sauvages rapatriés prit alors la parole et prononça un long discours. Il raconta, au grand ébahissement de ses auditeurs, toutes les merveilles qu'il avait vues, les bons traitements dont il avait été l'objet. Le plus profond silence régna pendant tout ce discours. Nada Bijou distribua ensuite du pétun à ses hôtes et au chef, et après avoir fait tirer quelques bouffées de son calumet, il prononça une longue harangue, parlant posément, s'arrêtant quelquefois, comme pour songer à ce qu'il allait dire. Il se félicitait d'avoir pu conquérir l'amitié des Français, car il n'y avait pas de nation auquel il voulait plus de bien. Mais il était surtout très heureux d'apprendre que le roi désirait peupler leurs terres et les aider dans leur guerre. Puis, le festin se continua. Une récente victoire emportée sur les Iroquois était la cause de cette réjouissance. Champlain apprit d'eux que les Etchemins, les Algonquins et les Montagnais, au nombre de 1000, étaient allés à la rencontre de l'ennemi commun à l'entrée de la rivière des Iroquois, qu'ils en avaient tué 100 dans une surprise. Pour preuve de leur assertion, ils exhibèrent, aux yeux des Français, les crânes sanglants qu'ils avaient emportés avec eux. Cette petite fête ne fut que le prélude d'une autre beaucoup plus extraordinaire, dont Tadoussac fut témoin 12 jours plus tard. Un grand nombre de sauvages étaient venus se joindre aux autres dans l'intervalle, et tous ensemble avaient dressé leur wigwam sur la grève de Tadoussac, tout près des barques françaises. Ce fut le 9 juin qu'eurent lieu ces réjouissances, consistant en danse, chants, harangues et jeux. Les Souat, grand sagamo des Algonquins de l'île, semblait jouer un rôle important dans cette démonstration publique. Quelquefois, dit Champlain, il se levait et s'en allait haranguant et disait aux montagnais et aux chemins
« Voyez comme nous nous réjouissons de la victoire que nous avons obtenue sur nos ennemis. Il faut que vous en fassiez autant afin que nous soyons contents. »
Et tous les sauvages s'écriaient « Oh, oh, oh !» c'est-à-dire « Oui, oui, oui !» en signe d'approbation. Puis, Nada Bijou fit un cadeau à chacun des Algonquins, consistant en haches, épées, chaudrons, viande de loup marin ou d'orignal. Le tout se termina par des courses, à la suite desquelles l'on distribuait des prix aux plus alertes. Après avoir raconté longuement ces fêtes publiques, Champlain nous donne des détails intéressants sur les mœurs et les coutumes des sauvages, sur leur manière de faire tabagie, sur leurs croyances religieuses. Ils dirent à Champlain qu'ils croyaient à l'existence d'un Dieu créateur de toutes choses, mais ils avaient une singulière façon d'expliquer la création de l'homme.
Après que Dieu eut fait toutes choses,
disait-il,
il prit quantité de flèches et les mit en terre, d'où il sortit hommes et femmes qui ont multiplié jusqu'à présent et sont venus de cette façon.
Champlain ayant demandé aux sagamos s'ils ne croyaient point qu'il y eût un autre Dieu, il répondit que leur croyance était qu'il y avait un Dieu, un fils, une mère et le soleil. Que Dieu était le plus grand des quatre. Le fils et le soleil étaient bons, mais la mère ne valait rien, et le père, pas trop bon. Les sauvages étaient convaincus que la divinité avait eu autrefois des communications avec leurs ancêtres.
Un jour,
raconta le sagamo,
5 des nôtres s'enfuirent vers le soleil couchant, rencontrèrent Dieu, qui leur demanda « Où allez-vous ? » Ils dirent « Nous allons chercher notre vie. » Dieu leur répondit « Vous la trouverez ici. » Mais ils passèrent sans se soucier de la parole divine. Dieu prit une pierre et en toucha 2 qui furent aussitôt transformés en pierre. Dieu, s'adressant aux 3 autres, leur posa la même question. « Où allez-vous ? » Même réponse que la première fois. « N'allez pas plus loin, s'écria la voix divine. Vous trouverez ici la vie. » Ne voyant rien venir, ils continuèrent leur chemin. Dieu prit alors 2 bâtons en toucha les deux premiers qui furent changés en bâtons. Mais le cinquième s'arrêta et n'alla pas plus loin. Dieu lui donna de la viande et après en avoir mangé, il retourna au milieu des siens. Une autre fois,
continua le même discoureur,
il y avait un homme abondamment pourvu de tabac. Dieu lui emprunta un jour son pétu noir et après en avoir fait usage, le rompit en plusieurs fragments. Le sauvage dit alors, « Pourquoi as-tu brisé mon pétu noir? Tu vois bien que je n'en ai point d'autre. » Dieu lui en offrit un autre, disant, « En voilà un que je te donne. Porte-le à ton grand sagamore. Qu'il le garde, et s'il le garde bien, il ne manquera de rien, ni tous ses compagnons. » Depuis que le sagamore eut en sa possession ce pétu noir, ses sujets ne manquèrent de rien. Ayant eu le malheur de le perdre, la famine s'établit chez eux en permanence.
Quant au diable, ils avaient leur pilotois ou sorcier qui lui parlait souvent. Il leur donnait des conseils dont ils étaient esclaves. Tuer un Français ou même un des leurs, rien n'était plus simple pour eux du moment que Satan en avait ainsi décidé. Ces barbares vivaient donc au milieu des plus grossières comme des plus stupides superstitions, n'observant pas même la loi naturelle, vivant pour la plupart comme des brutes. Cependant, Champlain crut qu'il serait facile de les amener au christianisme si les Français venaient à habiter au milieu d'eux. Oui, si tous ses compatriotes avaient déployé le même zèle que lui pour opérer leur conversion. Mais combien peu travaillèrent à cette œuvre apostolique, au moins parmi ceux qui vécurent de son temps. Reprenons le fil des événements en suivant Champlain dans la rivière Saguenay, dont il suiva le cours avant de se rendre au Sault Saint-Louis. Rendu à 12 ou 15 lieues, il n'osa pas pousser plus loin ce voyage. Il ne paraît pas l'avoir beaucoup intéressé. Toute la terre que j'ai vue, dit-il, ce ne sont que montagnes de rochers, la plupart couvertes de pois de sapin, cyprès et boules, terre fort mal plaisante, où je n'ai point trouvé une lieue de terre pleine, tant d'un côté que d'autre. Les sauvages lui apprirent qu'après avoir franchi le premier saut, d'où originait le Saguenay, il y en avait 8 autres. L'on pouvait ensuite voguer librement pendant une journée. Il fallait encore en passer 10 avant d'arriver dans un lac qui traversait en 2 jours. Les sauvages vivaient à son extrémité. 3 grandes rivières se déchargeaient dans ce lac. Ces rivières tiraient leur source dans le voisinage de 2 ou 3 manières de lacs d'où le Saguenay lui-même originait. Les sauvages faisaient ce parcours en 10 journées de canot. Le long de ces rivières étaient échelonnées de nombreuses bourgades montagneuses qui échangeaient les marchandises européennes qu'ils trafiquaient avec les Français à Tadoussac pour des fourrures que leur apportaient des Indiens du Nord. Ceux-ci leur avaient appris l'existence d'une mer salée. « Je tiens que si cela est, dit Champlain, que c'est quelques golfes de cette mer qui dégorge par la partie du nord dans les terres. » C'était évidemment l'abbé d'Hudson que ces tribus septentrionales avaient aperçues dans leurs excursions de pêche et de chasse. Champlain n'avait séjourné au pays de Tadoussac que 3 semaines, du 26 mai au 18 juin, et déjà, il avait puisé une masse de connaissances sur ce petit coin du pays et sur ses habitants. On se plaît toujours à reconnaître en lui l'observateur intelligent, qui ne perd aucune occasion de s'instruire pour son profit particulier et pour le bénéfice d'autrui. C'était, dira-t-on, le but de sa mission en Canada. Sans doute, mais combien d'autres, à sa place, auraient préféré rester tranquilles à Tadoussac, sans se préoccuper de connaître les sauvages dans leur vie intime, de se faire amis avec eux, de leur apprendre les premières notions de la foi chrétienne. Au grand sagamore, qui lui narre ses contes fabuleux au sujet de l'être suprême, il montre un Dieu bon, sacrifiant son Fils pour sauver le monde, se faisant homme, vivant sur la terre, y guérissant les malades, ressuscitant les morts, chassant les diables, illuminant les aveugles, enseignant aux hommes la volonté de Dieu son Père, pour le servir, honorer et adorer. Une trinité en laquelle il n'y a point de plus tôt ou d'après, rien de plus grand ni de plus petit. C'est ainsi, et par un langage à peu près équivalent sur la Sainte Vierge et les Saints du Ciel, que Champlain se faisait déjà l'évangélisateur de ces pauvres idolâtres, plus à plaindre encore qu'à blâmer pour leur ignorance et leurs croyances superstitieuses. Après avoir échangé un adieu avec les sauvages des Trois Nations alliées, Champlain et Pontgravé partirent pour le Sault Saint-Louis. Ce voyage dura 15 jours. Ils reconnurent l'île aux lièvres, ainsi nommée par Jacques Cartier, l'île aux coudres, où il y a force ardoise, la petite rivière Saint-François. Les chaloupes plongèrent la rive sud de l'île d'Orléans et vinrent mouiller à Québec, qui, dit Champlain, est un détroit de la rivière du Canada, qui a quelques 100 pas de large. Il y a à ce détroit, du côté du nord, une montagne assez haute qui va en abaissant des deux côtés. Tout le reste est pays uni et beau, où il y a de bonnes terres pleines d'arbres, comme chênes, cyprès, boules, sapins et trembles, et autres arbres fruitiers sauvages et vignes, qui fait, à mon opinion, si elles étaient cultivées, elles seraient bonnes comme les nôtres. Il y a, le long de la côte du dit Québec, des diamants dans des rochers d'ardoise qui sont meilleurs que ceux d'Alençon. Champlain et ses compagnons ne firent que s'arrêter à Québec, où ils n'apprirent pas qu'ils y rencontraient de sauvages. Ils continuèrent à remonter le fleuve, faisant un court séjour à Sainte-Croix, antique bourgade d'Ochelaï, où Jacques Cartier s'était arrêté en 1535. Champlain signale les rivières Jacques Cartier et Batiscan du côté du nord, ainsi qu'une petite île près de l'embouchure de cette dernière. Il l'appelle Saint-Éloi. Il mentionne aussi une autre île à 3 lieues de Sainte-Croix, proche de la terre du Sud. Ce ne peut être que l'idée du Richelieu qu'il choisit plus tard pour servir de rendez-vous aux sauvages et aux Français, désireux de faire la traite des pelleteries. Champlain fait la remarque que, du côté sud du fleuve, le pays est beau et uni, les terres y sont les meilleures qu'il ait vues, couvertes de bois, de vignes, de poires, noisettes, cerises, groseilles rouges et vertes, et de certaines petites racines, de la grosseur d'une petite noix, ayant le goût des truffes et très bonnes rôties ou bouillies. Toute cette terre est noire, dit-il, sans aucun rocher, sinon qu'il y a grande quantité d'ardoises. Elle est fort tendre, et si elle était bien cultivée, elle serait de bon rapport. Tout le côté nord, ajoute-t-il, est fort uni et agréable. Elle est sable mouvant. Mais, entrant quelque peu dans les bois, la terre est bonne. Nos explorateurs arrivèrent bientôt aux Trois-Rivières, où ils crurent s'apercevoir que la température était plus douce qu'à Sainte-Croix et la végétation plus avancée. Champlain crut, avec raison, que ce poste se prêterait bien à un établissement fortifié. C'eût été, d'après lui, un bon moyen de tenir en respect les Iroquois, ennemis des sauvages de Tadoussac et du lac Saint-Jean. Ces derniers n'osaient pas descendre le Saint-Maurice, de crainte de tomber entre les mains de ces féroces barbares qu'ils redoutaient à bon droit. Champlain essaya de remonter le cours de cette rivière, mais les rapides le firent bientôt rebrousser chemin. Le 29 juin, Champlain et Pontgravé entraient dans le lac Saint-Pierre, ainsi appelé à cause du saint dont l'église célèbre la fête ce jour-là, puis remontèrent le Saint-Laurent jusqu'à la rivière des Iroquois, après avoir côtoyé les îles de Sorel, au nombre de 30, couvertes de noyers et de vignes. À la bouchure de la rivière étaient cabanés, dans un petit fort, des sauvages qui se disposaient à aller attaquer les Iroquois dans leur pays. Champlain résolut de remonter le cours de la rivière. Tout alla bien pendant les premières heures, mais lorsqu'il eut fait 5 ou 6 lieues, le courant l'empêcha de passer outre. Il fit un portage d'une couple de lieues, et se trouvant en présence de la même difficulté, il s'en revint au lieu du départ. Les sauvages lui apprirent l'existence du rapide de Chambly, de 2 grands lacs situés plus profondément dans les terres, et dont l'un devait par la suite porter le nom de Champlain, ainsi que la rivière Hudson, par laquelle on pouvait se rendre à la Floride. Cartier avait recueilli des aborigènes de la bourgade de Stadacone des renseignements fort ressemblants à ceux-ci sur la rivière des Iroquois et les pays situés beaucoup plus au sud, où il y avait oranges, amandes, noix, c'est-à-dire la Floride. Le premier jour de juillet, nos voyageurs n'étaient plus qu'à 2 journées de barque du terme de leur voyage. Ils aperçurent les îles de Verchères, que Champlain prit pour une seule île, une autre qu'il appela plus tard Sainte-Hélène, une troisième à la bande du Nord, où les canots furent mis en sûreté. Puis, ils prirent un esquif très léger, construit expressément pour remonter le saut Saint-Louis. Les sauvages, leur guide, montaient un canot d'écorce. La navigation du fleuve à partir de cet endroit est très difficile et surtout périlleuse à cause des roches et des courants rapides. Aussi, l'embarcation de nos Français, quelque légère qu'elle fût, se trouva bientôt arrêtée dans sa course et ils n'avaient pas franchi l'espace de 300 pas qu'il leur fallut se mettre à l'eau pour passer outre. Les sauvages, de leur côté, n'avaient éprouvé aucun retard. Le saut Saint-Louis apparut bientôt à leur regard. « Je vous assure, » écrit Champlain, « que jamais je ne vis un torrent d'eau déborder avec une telle impétuosité, comme il fait, bien qu'il ne soit pas beaucoup haut, n'étant en aucun lieu que d'une brasse ou de deux, et au plus de trois. Il descend comme de degré en degré, et en chaque lieu, où il y a quelque peu de hauteur, il s'y fait un ébouillement étrange de la force et raideur que va l'eau en traversant le dissous qui peut contenir une lieue. Et en outre, ce saut premier, il y en a 10 autres, la plupart difficiles à passer. Se voyant donc dans l'impossibilité de franchir le cours impétueux des eaux bouillonnantes du fleuve, Champlain et ses compagnons prirent pied sur le rivage et suivirent ainsi le fil de l'eau sur un assez long parcours. Mais c'était du temps perdu, car ils reconnurent bientôt qu'il leur était impossible d'aller au-delà, à moins de se munir d'un bon canot sauvage et de se condamner à faire les portages aussi souvent qu'ils rencontreraient des obstacles à la navigation. De retour aux barques, Champlain se prit à questionner les sauvages sur la géographie du pays. Ce qu'il tenait à savoir par-dessus tout, c'était d'où le fleuve prenait sa source. Voici les renseignements qu'il obtint d'eux, par signe plutôt qu'en parole. Passé le premier saut, il y avait, 5 ou 6 lieues plus loin, une rivière qui se rendait au pays des Algonquins, à environ 60 lieues de distance du grand fleuve. Il fallait ensuite passer 5 rapides, d'environ 1/4 ou 1/4 de lieue chacun. Le fleuve s'élargissait plus loin pour former un lac de 15 ou 16 lieues de long. Puis, après avoir franchi une succession de lacs et de rapides de moindre importance, l'on arrivait à un lac de 80 lieues de longueur. Au bout de ce lac, il y avait un saut quelque peu élevé. De là, on entrait dans un autre lac de 60 lieues, dont l'eau avait la réputation d'être très salubre. À l'extrémité de ce lac commençait un détroit de la rivière qui pénétrait assez avant dans les terres. Les sauvages avouèrent à Champlain qu'ils n'avaient pas été plus loin et qu'ils connaissaient que par où dire l'extrémité d'un autre lac. En été, le soleil se couchait au nord de ce lac, tandis qu'en hiver, ses derniers rayons venaient se répandre en son milieu. L'eau en était très mauvaise ou salée, ce qui fait croire à Champlain que c'était la mer du Sud. Comme il est facile d'en juger, les détails étaient assez exacts. Les Algonquins que Champlain rencontra quelques jours plus tard, en redescendant le fleuve à l'aide d'Orléans et un peu plus haut que Tadoussac, ne firent que confirmer ces témoignages. À part les exagérations dont les sauvages émaillent toujours leur récit, surtout en ce qui a trait aux chiffres et aux distances, ces données sur les lacs Ontario, Erie, la chute Niagara, la rivière du Détroit et les rapides du Saint-Laurent ne manquaient pas d'une certaine précision. Mais Champlain n'avait pas une autre opinion de leur véracité. « Il n'y faut pas tant ajouter de foi, dit-il, que ce soit avec raison apparente, bien qu'il y en ait quelque peu. » Montgravé et Champlain ne firent pas un long séjour dans les parages du saut Saint-Louis. Arrivés le 3 juillet, ils en repartirent le lendemain, un vendredi, et vinrent jeter l'ancre aux Trois-Rivières le dimanche suivant. 2 jours plus tard, ils revoyaient le promontoire de Québec, et le vendredi 11 du mois, ils étaient de retour à Tadoussac. Comme la saison n'était pas très avancée, Champlain décida de pousser ses découvertes dans une nouvelle direction. La Gaspésie, dont il avait aperçu la côte en arrivant au Canada, était un pays nouveau pour lui et qui devait apporter à son amour des découvertes un champ bien vaste. Aussi, ne manqua-t-il pas, durant le court voyage qu'il y fit, de se bien renseigner, non seulement sur sa topographie, mais encore sur les peuples qui l'habitaient et les ressources qu'il pouvait offrir au commerce et à l'industrie des hommes de sa nation. Son expédition ne dura que 22 jours et il put réunir, en aussi peu de temps, une foule de détails sur la Gaspésie, la baie des Chaleurs la côte du Nouveau-Brunswick, le Cap Breton, l'Acadie, la baie française. Il apprit même l'existence de la rivière Saint-Jean, laquelle va proche du lac des Iroquois, par où les sauvages de la côte de l'Acadie leur vont faire la guerre. À mi-chemin entre Tadoussac et Gaspé, sur la rive sud du Saint-Laurent, Champlain rencontra un parti de sauvages, conduit par Armouchide, leur sagamo, tenu pour l'un des plus hardis parmi les sauvages. Ils se dirigeaient vers Tadoussac pour troquer des flèches et des peaux d'orignal contre les castors et les martres des Montagnais, les Chemins et Algonquins. Champlain visita la baie de Gaspé par une corruption évidente de l'expression anglaise « Molyu Bay », enfin Percé et son rocher, où il a un trou par où les chaloupes et bateaux peuvent passer de haute mer, et l'île de Bonaventure. Tous ces dix lieux de Gaspé, baie des Molus et île Percé, sont les lieux où se fait la pêche du poisson sec et vert. Les sauvages lui assurèrent qu'au fond de la baie des Chaleurs commençait une rivière au bout de laquelle était un lac de 20 lieues qui asséchait pendant l'été. En creusant dans le lit de ce lac, à environ un pied de profondeur, on trouvait un métal ressemblant à l'argent. À quelque distance de là, gisait une mine de cuivre. Champlain apprit ainsi des sauvages l'existence des mines, mais il ne paraît pas avoir attaché trop d'importance aux affirmations qu'il reçut d'eux. Les rapports que lui fit à l'île Percé le sieur Prévert de Saint-Malo, qui revenait du pays des mines, sans être absolument faux, comportaient beaucoup d'exagérations. Champlain nous raconte assez longuement tout ce qu'il plut au navigateur malouin de lui narrer à ce sujet, avec l'intention de lui en bailler d'une, suivant l'expression de l'escarbot. Cette mine se confondait, pour ainsi dire, avec une montagne assez élevée, s'avançant dans la mer, reluisant beaucoup au soleil, bien qu'une couche de verre de gris dût obscurcir le métal, qui était du cuivre. Au pied de la montagne, on pouvait amasser des fragments de cuivre qui se détachaient à la longue. 4 lieues plus loin, vers la côte d'Acadie, se trouvait une montagne de peinture noire dont les sauvages se servaient pour se teindre la figure. Puis, à environ 6 lieues plus loin, près de la côte acadienne, était une île où les sauvages avaient vu un métal brun obscur, mais d'une cassure blanche qu'ils utilisaient, à cause de sa ténacité, pour fabriquer des flèches et des couteaux. D'après le témoignage de Prévert, Champlain conclut que la mine de cuivre gisait au nord d'une baie dans laquelle plusieurs petites rivières venaient déverser leurs canaux. Il est sans doute ici question du bassin et du canal des mines et des contrées avoisinantes. Muni de tous ces renseignements, qu'il enregistra soigneusement dans ses cartons, Champlain quitta l'île Percé le 19 juillet pour revenir à Tadoussac. Une tempête le força à relâcher à plusieurs endroits le long de la côte méridionale du fleuve. Il prit alors le parti de gagner le nord, bien mouillé près de la rivière Sainte-Marguerite, reconnut la rivière des Rochers, la pointe des Monts, le cap Saint-Nicolas, l'entrée de la rivière Manicouagan, la baie des Outardes, la pointe de Betsiamis, les îlets de Jérémie, les Escoumins, l'Anse aux Basques. Enfin, le 3 août, il atteignait la rade de Tadoussac, où il renouvela connaissance avec les sauvages qu'il avait vus, cantonnés à l'embouchure de la rivière des Iroquois, et il apprit d'eux qu'ils avaient engagé la bataille sur les bords du premier lac. Ils avaient rapporté, comme trophée, les têtes de leurs ennemis tués durant la bataille. Un seul montagnais avait été blessé. Ces sauvages étaient à la veille de reprendre le sentier de la guerre contre les Iroquois. Avant de partir, Bigoura, leur chef, les réunit sur une grande place publique et là, ils se livrèrent à des danses et à des festins suivant leur habitude. Les femmes, parées de matachia, prirent une part toute particulière à cette fête d'adieu. La tabagie terminée, elle s'était emparée des canots et s'avança jusqu'à une certaine distance du rivage et simulèrent un combat à coups d'aviron qu'elle se renvoyait tout en évitant de se blesser. Quand elles furent rassasiées de s'abîmer d'eau et de coups de pagaie, elles se retirèrent dans les cabanes. Les hommes reprirent leurs canots en route pour le pays des Iroquois. Champlain et Pontgravé quittèrent Tadoussac à leur tour le 16e jour d'août, s'arrêtant à l'île de Percé, où le sieur Prévert était rendu. Ils amenaient avec eux le fils de Bigoura et une femme iroquoise que Pontgravé avait réussi à sauver du supplice. Prévert avait aussi à son bord 4 sauvages, un homme de l'Acadie, une femme, les deux enfants des Canadiens. Enfin, le 24 août, les deux vaisseaux relâchèrent de Gaspé. Après une traversée de 27 jours, on aperçut la rade du Havre de Grâce et Champlain vint débarquer à Honfleur. Le commandeur de chasse était mort le 13 du mois de mai précédent. Cette mort constituait une perte pour le Canada, en même temps qu'elle affligea profondément Pontgravé et Champlain. Ceux-ci reposaient toute leur confiance dans ce personnage, les croyant sérieusement disposés à coloniser la Nouvelle-France. Malaisément, dit Champlain, un autre pourrait entreprendre cette entreprise si ce n'était un seigneur de qui l'autorité fut capable de repousser l'envie. M. de Chastes jouissait d'un grand prestige à la cour. Aussi, les marchands malouins, Rouennais et autres, avaient-ils piteusement échoué dans leur démarche auprès du roi pour qu'il renonçât au système exclusif de traite en faveur de particuliers. L'expédition de 1603, organisée sous les yeux du commandeur, faisait bien augurer pour celle qui s'en suivrait. En cette entreprise, dit Champlain, je n'ai remarqué aucun défaut pour avoir été bien commencé. Au lieu de jeter sur le sol du Canada des centaines de colons, recrutés dans les bas-fonds de la société française, comme Roberval et le marquis de La Roche l'avaient fait sans avoir au préalable préparé un lieu convenable pour les recevoir, M. de Chastes s'était dit qu'il fallait tout d'abord faire un examen de la Nouvelle-France, étudier ses ressources, son climat, s'assurer des dispositions des sauvages. Puis, il avait jeté les yeux sur Samuel Champlain pour aller à la découverte de l'endroit le plus propice aux fins d'un établissement que l'on peuplerait sans retard. La mort du commandeur pouvait déranger tous ces plans habilement conçus si le futur fondateur de Québec n'avait été là, présent, pour exhorter le roi à ne pas les abandonner. Il s'était rendu à la cour aussitôt qu'il eut mis le pied sur le sol de sa patrie et il exhiba aux yeux de Henri IV la carte qu'il avait minutieusement dressée des pays reconnus ainsi que la relation de son voyage. Le roi parut tellement satisfait du rapport de son géographe qu'il lui promit non seulement de ne pas négliger l'œuvre projetée, mais encore de la favoriser. Les éditions de l'Avenir vous ont présenté le chapitre 3 de Samuel Champlain, fondateur de Québec et père de la Nouvelle-France, histoire de sa vie et de ses voyages par N.E. Dionne. Cette version audio est diffusée sous contrat Creative Commons Attribution Non-Commercial No-Derivatives et est une production 2011 des éditions de l'Avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'avenir audio.canalblog.com. Merci de votre attention. À bientôt.